Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique. Est-ce qu'il y en a ? Alors je m'excuse à l'avance, mais on est d'accord pour dire que la France est championne du monde de lenteur administrative. Et j'imagine personne ne saute de joie lorsqu'elle doit aller à la préfecture. Personne ne saute de joie lorsqu'elle doit renouveler son passeport ou doit, déclarer un vol au commissariat. On est tous d'accord, c'est une contrainte. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment qu'on va faire la queue. On va faire la queue, on va attendre, on va devoir patienter. Et même lorsqu'on va chez le docteur, il y a une salle d'attente. Et c'est pas par hasard que les médecins nous appellent des patients. En effet, on est des patients parce que on a besoin de voir ce médecin. Et on se doit d'attendre. Mais le fait est qu'on attend parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, le médecin va venir. Et c'est un peu comme pour nous, en tant que chrétiens, la Bible nous enseigne que Christ va revenir, à un moment donné. Et pendant qu'on est sur terre, une sorte de salle d'attente, j'ai envie de dire, on se doit de patienter, parce qu'on a besoin de le voir. Parce que Jésus nous fait du bien. Et donc à cet effet, on se doit d'être prêt et d'être vigilant en tant que chrétien, chrétienne, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et donc, cet après-midi, j'ai divisé mon passage en trois parties. J'ai pas de PowerPoint, je suis désolé. Mais on va prendre la première partie. Les cinq premiers versets. Si tu peux, voilà. Alors, je vous donne un rappel du contexte, très rapide. Dans Matthieu 25, Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, lorsqu'il prédit cette destruction, les disciples lui demandent quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que la fin du monde va arriver? Et en fait, ça peut sembler bizarre que les disciples de Jésus posent cette question parce que, pas tant que ça. Parce que pour eux, les Juifs à l'époque, l'annonce de la destruction du temple signifiait littéralement pour les Juifs la fin des temps. Et donc, c'est un peu comme si, la Tour Eiffel était détruite. Ce serait une catastrophe. On a vu la réaction des gens, des Parisiens, lors de la destruction, l'incendie de Notre-Dame. Vous imaginez, si c'était la Tour Eiffel, ce serait encore pire. Et en fait, c'est un peu justement cette catastrophe de savoir que le temple allait être détruit. Et donc, ils pensaient que le retour de Jésus se ferait immédiatement suite à la réponse de Jésus. Mais la réponse de Jésus indique qu'il fallait attendre bien plus qu'il ne le pensait. Et bien sûr, sur le coup, les disciples ne savaient absolument pas, mais ils allaient attendre un petit moment. Mais ce qui est important, c'est que Jésus donne certains signes et certains indices sur quand est-ce que la fin des temps va arriver. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on peut s'appuyer sur ces signes et pour présager justement la fin des temps et surtout à son retour. Et le fait est que personne, absolument personne, sauf le Père, ne sait quand est-ce que Jésus va revenir. Même Jésus, il ne sait pas. Et donc, c'est pour ça que, dans ce passage, Jésus appelle à ce que ses disciples soient vigilants et soient prêts. Et donc, pour illustrer son point, il utilise cette fameuse parabole des 10 vierges qu'on connaît tous si on a grandi à l'Église. Et pour moi, c'est important, c'est même crucial de vous expliquer le déroulement d'un mariage juif pour que vous puissiez comprendre le sens et la signification de toute cette parabole. C'est incroyable. Sachez que dans un mariage juif, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un mariage juif, mais à l'époque, dans un mariage juif, il y avait trois étapes. Premièrement, il y avait l'arrangement, ensuite les fiançailles et le mariage. Donc on va commencer par l'arrangement. Comme le nom l'indique, c'est un arrangement. Comment ça se passait en général à l'époque ? À l'époque, il y avait les pères des deux époux, du futur marié et de la future mariée, qui s'accordaient sur les termes de conditions de mariage. En général, c'était le père du marié qui choisissait la fille pour son fils. En général, ça se passait comme ça. Et donc, il y avait un contrat oral, puis il y avait un contrat écrit qui stipulait justement toutes les conditions du mariage en question. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait ? C'est que le jeune homme payait la dot pour la famille de la mariée. Mais sachez, les filles, les femmes, qu'elles avaient leur mot à dire. Par exemple, elles pouvaient dire non. Je vous rassure. Enfin, si c'était fait dans les bons termes. Et donc, après l'arrangement, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les fiançailles. Qu'est-ce qu'il y avait dans les fiançailles ? En fait, les fiancés, ils échangeaient des vœux lors d'une cérémonie qui était publique, qui se faisait devant tout le monde. Et donc, ces échanges de vœux, ils entraient dans ce qu'on appelle une période de sanctification, qui durait généralement un an, comme les fiançailles normales, j'ai envie de dire. Et même s'ils étaient considérés légalement mariés, le couple vivait séparément, chacun chez son père, enfin chez ses parents et enfin pour le marié et la mariée, sans aucune relation intime, d'accord. Et après la cérémonie des fiançailles, le marié donnait un cadeau à la mariée pour lui rappeler qu'il allait revenir la chercher, pour que la mariée puisse se souvenir de l'engagement qu'il a pris pendant la cérémonie des fiançailles. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période des fiançailles était beaucoup plus significative dans la culture juive que ça ne l'est aujourd'hui. En effet, le sens des fiançailles était tellement forte qu'il fallait un truc légal pour casser le contrat qui était stipulé. Et seul le marié pouvait demander le divorce. Et ça, c'est important de le retenir pour la fin. Et donc, pendant cette période de sanctification, pendant cette période d'un an, le marié préparait la future maison pour accueillir sa future femme. Et le rôle de la mariée, c'était de se préparer justement au retour du marié pour qu'il puisse la prendre en retour. Et donc, il s'agissait pour la mariée d'un temps de grande anticipation. Et la grande caractéristique pendant cette période, c'était qu'elle ne savait absolument pas quand est-ce qu'il allait revenir. Et donc, l'effet de surprise devait être important. Et donc, sachant qu'il s'agissait d'une surprise, la mariée devait se tenir prête à tout moment pour accueillir le marié. Et en général, ce qui se passait, c'est que lorsque le marié allait venir chercher sa femme, il envoyait ses amis avec qui procédaient avec des chants, des musiques pour signifier justement l'arrivée du marié jusqu'à la procession de la maison de la mariée. Et c'est ensuite qu'on a la cérémonie de mariage avec le renouvellement des vœux devant tout le monde. Et ensuite, il y avait les festivités qui duraient pendant 7 jours avec la nourriture, la musique, les danses, etc., etc. Et c'est après cette cérémonie que le mari pouvait consommer le mariage. Et dans l'histoire que Jésus nous raconte ici, on se trouve dans la période, des fiançailles, vers la fin des fiançailles, juste avant les festivités. Versets 1 à 5. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors ici on a 10 jeunes filles. c'était certainement les demoiselles d'honneur de la mariée. Et donc, elles attendaient avec la mariée l'arrivée du marié pour commencer les festivités. Et donc, la parabole nous dit qu'il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Je pense que Jésus, ici, il parle pas de 5 filles qui étaient immorales et 5 filles qui étaient morales, qui étaient bonnes moralement, mais des filles qui étaient prudentes, imprudentes, des filles qui étaient réfléchies, irréfléchies. Et donc, les 10 filles ont pris des lampes, comme le veut la tradition juive, et donc, la moitié d'entre elles n'ont pas pris d'huile, et l'autre en ont pris. Et l'huile, bien sûr, servait à allumer la lampe, évidemment. Et il est très probable que les filles qui avaient de l'huile sont allées le chercher pendant la journée, parce que elles s'étaient préparées à l'éventualité que le marié puisse venir tard dans la nuit. Et le parallèle de cette parabole est le suivant. Le marié, ça représente Christ. D'accord? La fête de mariage représente le banquet final qui est décrit dans l'Apocalypse. Et les jeunes filles ici représentent toutes ces celles qui sont invitées à cette fête céleste. Et donc, cette parabole nous montre que tous sont invités à célébrer Christ. Mais seulement une partie des invités ne sont pas préparés à ce mariage, à ces fêtes de noces. Alors que l'autre partie anticipe la venue, le retour de Christ, le marié. Et parce que justement les 5 sages ont anticipé le retour, elles ont fait preuve de lucidité et se sont donc préparées à acheter ce surplus d'huile. Et l'huile ici symbolise justement cette anticipation, cet enthousiasme qu'elles ont pour le marié. Qui aime ne pas être préparé pour un grand événement? Qui? Personne. Par exemple, il y a quelques années, j'étais invité à un mariage. Et je suis arrivé dans l'église et tout de suite on est venu vers moi pour me demander si je pouvais faire la traduction, alors que j'étais pas du tout prévu. On m'a rien demandé avant coup, et parce que c'était un mariage anglo-français pardon. Et donc il y a la cérémonie qui démarre, je fais la traduction et j'étais pas du tout préparé. Et en fait, j'étais pas préparé et c'était tellement nul ma traduction qu'on m'a changé en cours de cérémonie. Qui aime rater un événement pour faute de préparation? Qui aime rater un événement pour faute de préparation? Alors quand j'ai encore une petite anecdote. En 2003, je passe mon bac et je passe les épreuves tranquille et je dois passer l'épreuve d'histoire géo. J'avais révisé normal et ce qui se passe, c'est que je sais pas pourquoi le jour de l'épreuve, je me réveille en retard. Je sais pas pourquoi. Et donc je panique, mais je vais quand même au lycée pour passer l'épreuve et je vais avoir une heure de retard. Et je sais qu'aujourd'hui, on ne serait-ce qu'une minute de retard, on est recalé. Et moi, je sais pas pourquoi, par la grâce de Dieu, on m'a accepté. Alors que j'étais préparé pour le jour J. Mais je sais pas pourquoi, mon réveil n'a pas sonné. Et donc, on m'a quand même fait rentrer. Et donc, pendant les 3 heures restantes, j'ai gratté comme j'ai pu. Et c'était vraiment le plus grand stress de ma vie. Vraiment. Quand on a 17 ans, c'est compliqué. Si on n'est pas préparé le jour J. Pour info, j'ai mon bac. Et en fait, le but de ces illustrations et de la parabole de Jésus, c'est quoi? C'est qu'il faut se préparer. C'est qu'il faut être vigilant lorsqu'on anticipe un événement. Au retour de Jésus, Dieu va célébrer un mariage. Le mariage entre son Fils et son peuple. Chaque être humain est convié à aller à cette fête. Ce sera le plus grand mariage cosmique et divin. Ce sera le plus beau mariage que vous assisterez. Mais avant d'aller à ce mariage, il faut se préparer et il faut être prêt. Lisez avec moi le verset 6 à 9. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Il y a quoi ? Il y a 2 semaines, on a fêté Pâques en tant que chrétien. Et Pâques, ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, dans les prophéties. Et si Jésus a ressuscité comme ce fut prophétisé dans l'Ancien Testament, alors à combien plus forte raison les paroles de Jésus sont encore plus crédibles et légitimes. Si Jésus dit qu'il va revenir, il reviendra. Est-ce que Jésus a déjà failli à ses promesses et à ses paroles? Lorsque les filles se sont réveillées lors de l'annonce de l'arrivée du futur marié, les folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Et donc, elles ont demandé aux sages, mais il n'y avait pas assez pour tout le monde. Et donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous qui vont être préparés à accueillir Jésus pour son retour, afin de ne pas se retrouver comme dans la situation de ces folles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, c'est d'être conscient, en tant que disciple de Christ, que le retour de Jésus peut arriver à n'importe quel moment. C'est un premier pas d'être conscient de cela. Je sais, ça fait plus de 2000 ans que Jésus a prononcé ces mots. Je sais que ça fait long. Ça fait un moment. Et si on est honnête avec nous-mêmes, ça semble même improbable que Jésus revienne pendant qu'on vit ici sur terre. Et bien sûr, si on dit à nos amis non-chrétiens que l'on croit et que l'on pense que Jésus va revenir, on nous prend pour des fous. Mais souvenez-vous que peu sont les personnes qui ont suivi Jésus-Christ au premier siècle. Les disciples eux-mêmes ont été moqués d'avoir suivi leur sauveur. Ils ont été moqués pour leur attente du retour de Jésus. L'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, si vous voulez tourner avec moi. Dans 2 Pierre 3, versets 3 à 5, il écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Faire face aux mots de cri, aux railleries, c'est jamais facile. Et donc, c'est tentant de prendre les mots de Jésus à la légère, comme quoi il va revenir, parce que ça nous paraît incrédible qu'il puisse revenir pendant qu'on vit ici sur terre. Mais prendre conscience qui va revenir, c'est un premier pas à la vigilance. Écoutez comment Pierre encourage justement ses lecteurs face aux moqueries, au verset 8. Mais s'il y a bien une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En clair, on n'a absolument pas la même notion du temps que Dieu. Il est probable que beaucoup de chrétiens se demandent mais pourquoi Dieu nous fait attendre avant son retour? Pourquoi prendre autant de temps? Une fois de plus, Pierre nous apporte la réponse dans 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. En gros, Jésus n'est toujours pas venu pour que d'autres âmes se tournent vers lui, pour que d'autres âmes soient sauvées. Dieu, il aime tellement ses créatures qu'il attend patiemment qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle et l'évangile pour que des âmes se repentent et se tournent vers lui. Moi, j'ai envie de dire quel Dieu d'amour et de miséricorde. Parce que s'il le voulait, il reviendrait tout de suite. Et le plus incroyable dans cette parole de Pierre, c'est qu'il nous inclut dans son projet de rédemption. C'est-à-dire que si nous, on est des instruments d'évangélisation pour que Jésus revienne, moi, je trouve ça incroyable. Et si vous avez déjà commencé à partager l'évangile à vos amis qui ne vous connaissent pas, continuez, persévérez, priez pour eux. Et surtout, ne vous découragez pas. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Si Dieu fait preuve d'autant de patience envers ces gens-là, alors à combien plus forte raison nous, on doit faire preuve de patience avec nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que en œuvrant pour le royaume de Dieu, on contribue au retour de Jésus. Et bien sûr, pour moi, c'est important de vous rappeler que c'est pas par nos propres efforts que les gens viendront vers Christ, mais c'est l'Esprit qui fait son œuvre. Nous, on est juste des instruments. Chaque croyant possède l'Esprit qui le guide. Et on doit s'appuyer sur l'Esprit, justement, pour que celui-ci œuvre dans l'attente du retour de Christ. C'est l'Esprit qui vous donnera le courage d'aller vers vos collègues, vers vos voisins, vers votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Et il y a une autre application que j'aimerais qu'il soit concrète, c'est que c'est bien de proclamer l'Évangile, c'est bien de proclamer Jésus, mais il est également important que l'on fasse par nos actions. Beaucoup de gens de ma génération veulent changer le monde. On veut tous changer le monde. Et bien sûr, on sait que c'est pas possible. C'est impossible de changer le monde tout seul. Du moins pas comme on le fantasme dans notre tête. Et la chose, c'est que Dieu appelle chacun d'entre nous d'être de simples serviteurs. Il nous a placés dans un endroit précis, dans un lieu précis, avec des gens précis, pour que l'on puisse servir dans ce contexte-là. Il a limité nos champs d'action pour qu'on soit plus efficace, et pas d'essayer de changer le monde à notre manière comme on le fantasme. Il nous demande simplement de faire une chose, c'est de le servir, d'être fidèle, d'aimer notre prochain, et de servir l'Église. Et donc, le temps nous est donné pour préparer son retour. Et l'annonce de sa venue, elle doit se faire maintenant et pas demain. Parce que Jésus reviendra bientôt. Jésus reviendra bientôt. Versets 10 à 13. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, ni l'heure. En effet, il y aura un moment où la porte se fermera. Et ça sera trop tard pour aller aux festivités du plus grand mariage. Et ce, à jamais. Il y a un commentaire de ce passage qui dit que celles qui étaient présentes dans la procession nuptiale se devaient d'avoir leur propre lampe afin de se faire connaître, pour montrer qu'elles n'étaient pas étrangères aux mariés, pour dire, en fait, c'était une sorte de carton d'invitation. Après tout, qui laisse des étrangers venir à leur mariage? Personne. On invite les gens qui assistent à notre mariage. Et c'est pourquoi le marié dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Parce qu'elles n'avaient pas leur lampe avec elles. Et donc, les jeunes filles folles se sont vues refermer sous leur nez refermer la porte par manque de préparation et de vigilance. Et j'ai envie de dire, quelle erreur ce serait de notre part que de se retrouver dans la même situation pour les mêmes raisons. Alors, la question pour vous, c'est de savoir comment se faire connaître de Dieu. Comment être dans la présence du marié? Comment pouvoir assister à ses noces? Si Jésus utilise cette parabole, c'est absolument pas par hasard. C'est en aucun cas un par hasard. On est dans le contexte d'un mariage. Du début des Écritures, dans Genèse, qui a commencé par l'union entre Adam et Ève, jusqu'à la fin, dans Apocalypse, c'est-à-dire les festins des noces, l'image du mariage est omniprésente dans les Écritures. Et ça décrit la relation qu'entretient Jésus et son peuple. Et donc, je vous ai parlé de trois étapes pour un mariage juif. L'arrangement, les fiançailles et le mariage. Et le récit de l'Évangile décrit exactement la procédure d'un mariage juif. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est très simple. À la création du monde, Dieu le Père, a choisi une épouse pour son Fils et l'a concrétisée par une alliance, par un contrat, stipulant amour, fidélité, sacrifice. Et donc Jésus a conclu la nouvelle alliance avec son peuple en payant une dot. Cette dot, il l'a payée de sa propre personne, de sa propre vie, sur la croix, en démontrant tout son amour pour sa mariée. Et en échange, comme une mariée doit payer se doit de se réserver pour son mari, l'Église se doit de se réserver pour Christ, démontrant obéissance et fidélité jusqu'à qu'il revienne vers nous. Et lors des fiançailles, qui sont, comme je vous rappelle, une période de sanctification, dans laquelle on doit faire preuve de notre attachement public à Jésus, pendant cette séparation temporaire avec le marié, Jésus nous a laissé un cadeau. Ce cadeau, c'est Saint-Esprit. Et en nous laissant le Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il va revenir nous chercher. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans la tradition juive, le divorce n'était possible que pour le mari. Et contrairement aux hommes, Dieu ne revient jamais sur ses mots. Jamais Dieu ne prononcera un divorce parce qu'il a conclu une alliance à la croix. Sa promesse est qu'il s'est engagé envers nous, son Église, par son amour, et ce pour l'éternité, même si quand nous, on lui est infidèle. Et l'implication, elle est simple. C'est que l'alliance que Dieu a certifiée entre son fils et son épouse nous est garantie et scellée à jamais pour l'éternité par le sang de Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'en ce moment, pendant cette période de fiançailles, Jésus est en train de préparer sa nouvelle demeure céleste pour que nous puissions être avec lui dans sa présence. Et de même, nous devons nous préserver pour lui et préparer son retour parce que Jésus va revenir. Et lorsque ça sera le cas, on sera dans sa présence, on pourra le célébrer, faire la fête, chanter, danser, manger et boire. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui arrivent à l'heure à un rendez-vous et celles et ceux qui sont toujours en retard. Vous voyez de quoi je parle? Dans nos cercles d'amis, il y a toujours cette personne qui est toujours en retard. Toujours en retard. Et si vous ne savez pas qui c'est probablement vous. Et malgré cela, lorsque on a rendez-vous avec cette personne qui, on sait d'avance, sera en retard, on fait l'effort d'y aller, de l'attendre, de patienter à chaque fois qu'on a rendez-vous avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on veut la voir, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut passer du temps avec cette personne. Et donc, si vous aspirez à passer du temps avec Jésus, et que si vous voulez le voir, si vous l'aimez, on patientera avec anticipation sa venue, son retour. Soyons donc prêts et vigilants pour le retour de notre roi, de notre époux. Priez avec moi. Seigneur, merci pour cette parabole. Merci parce que les mots de ton fils résonnent dans notre cœur, dans nos vies. Et je te demande que tu puisses nous aider à vraiment anticiper ton retour. Pardonne-nous lorsque on oublie que tu vas revenir. Pardonne-nous lorsque on pense que tu vas pas revenir, Seigneur. Et pardonne-nous lorsque on t'est infidèle, lorsque l'on va avoir ailleurs, lorsqu'on va adorer d'autres idoles. Pardonne-nous de notre infidélité, Seigneur. Et même quand nous, on est infidèles, toi, tu restes fidèle, tu continues à nous aimer, tu continues à nous faire grâce. Et je te loue et je t'adore pour ça, Seigneur. Et s'il te plaît, permets-nous d'anticiper ta venue, d'être vigilant. Et Seigneur, s'il te plaît, reviens, Seigneur. Reviens nous chercher, parce qu'on veut te voir, parce qu'on t'aime, et parce que tu es merveilleux, Seigneur. Et je te prie que tu puisses aider chacun d'entre nous dans cette assemblée à intégrer cet aspect de l'Évangile, et que l'on puisse aussi évangéliser nos amis qui ne te connaissent pas, nos familles qui ne te connaissent pas, nos collègues, nos voisins, afin qu'ils puissent être sauvés eux-mêmes, Seigneur, et ta gloire puisse se manifester d'une manière incroyable. Et je te demande toutes ces choses au nom de Christ. Amen.